Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Gisèle Cage à la présentation de ce journal dont voici le titre. Des civils tués, de maisons incendiées et pillages de plusieurs biens dans la nuit de mardi à hier mercredi à Oicha, 30 km de la ville de Beni. C'était au cours d'une incursion de rebelles ADF dans cette partie de la province du Nord Kivu. Plus de 300 victimes de Mpox enregistrées dans la province de l'Équateur. L'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur appelle à une sensibilisation accrue contre cette pandémie. Vérifier l'état d'avancement du projet financé par le Canada dans la province du Kasaï oriental en faveur des femmes vulnérables. C'est l'objectif de la mission de l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Guilbeault, et notre invitée. Au Nord Kivu, 9 civils ont été tués, une dizaine de maisons incendiées et plusieurs biens pillés lors d'une incursion de rebelles ADF. Elle est survenue dans la nuit de mardi à hier mercredi à Oicha, à 30 km de la ville de Beni. Selon des sources de la société civile locale, le bilan reste encore provisoire. Le détail avec André Kitenge.
L'attaque des ADF à Oicha a eu lieu aux alentours des 19h heure locale. Les assaillants ont ciblé le quartier de Bakila Tenambo, situé en périphérie de la cité. L'attaque, qui a impliqué l'usage d'armes à feu, a duré près d'une heure, les ADF s'attaquant principalement aux populations civiles. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de 9 personnes tuées, dont 7 femmes et un enfant, ainsi que 4 blessés et plusieurs disparus. La plupart des victimes ont été tuées par balles et à l'arme blanche. En outre, des maisons et des boutiques ont été pillés avant d'être incendiés par les assaillants, provoquant le déplacement des habitants vers des zones plus sécurisées, notamment au centre commercial d'Oicha. L'armée intervenue pour repousser les assaillants indique que toutes les dispositions sont prises pour traquer ces rebelles. Son porte-parole, le colonel Makazukai, invite les habitants à se rapprocher des positions militaires et à éviter de se rendre dans les villages reculés. Il ajoute que 2 otages ont été libérés par l'armée. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Sécurité toujours et toujours dans la province du Nord Kivu. Des bandits armés ont sémé la terreur dans plusieurs villages du territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. À partir de minuit hier mercredi, des coups de feu nourris ont été entendus dans les villages Kieru, Rukoko et Ngangi 1. La société civile locale parle d'incursions dans des maisons d'habitation. Des biens de valeur et de l'argent ont été emportés. Les occupants des maisons inquiétés. Un habitant du village Kieru, un enseignant de son état, a été grièvement blessé à la tête et dépossédé de plusieurs biens. Thierry Gassisiro, secrétaire exécutif de la société civile du territoire de Nyiragongo, appelle les autorités à renforcer les capacités de la police pour faire face à l'insécurité ambiante. Il a été joint par Chris Mukande.
C'est de temps en temps que nous alertons sur cette insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. En dépit des différentes alertes et dénonciations, les cambriolages continuent, les bandits vaquent à leur sale besogne sans la moindre inquiétude. Il est temps ici que les autorités puissent accentuer les mesures sécuritaires, surtout en renforçant les équipes de patrouille, à leur dotant des moyens nécessaires pour leur permettre d'intervenir pendant que la population a besoin d'une intervention de la police, parce que la police aussi du territoire de Nyiragongo travaille dans des conditions vraiment difficiles. Ils n'ont pas assez de moyens pour la mobilité, donc ça fait à ce que cette police ne soit pas au lieu attendu à temps utile. Il est donc temps que les autorités puissent voir comment renforcer la police par des équipements pour leur permettre à ce que le travail que cette police fait à la population soit un travail tant attendu par la population. Cette insécurité finira un jour, mais pour y arriver, il faudrait la conjugaison des efforts de tout et chacun pour que nous tous nous puissions combattre cette insécurité qui a élu domicile dans les territoires de Nyiragongo.
Dans la même province, des affrontements entre le rebelle du M23, l'armée congolaise et le groupe Wazalendo ont été signalés dans plusieurs localités du territoire de Masisi. C'est notamment autour de la cité minière de Rubaya où des détonations d'armes lourdes ont été entendues hier mercredi. Par ailleurs, la cité de Sake, dans le même territoire, il s'observe une accalmie depuis hier. 3 mortiers avaient été tirés mardi près de cette zone. Bernard Nyangui pour le détail.
Les combats ont repris vers 8h locales ce mercredi autour de la cité minière de Rubaya en territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, Les combattants Wazalendo ont repris les attaques qu'ils ont menées entre 4h du matin et midi hier mardi contre les positions des rebelles M23, notamment à Kibabi, Biambwe et Mema, à une dizaine de kilomètres de Rubaya Centre. Aucun bilan de ce combat n'est encore disponible, la zone ayant des perturbations des réseaux de téléphonie mobile. Par ailleurs, entre 17h30 et 18h locales, hier mardi, au moins 3 mortiers qui auraient été largués depuis les positions occupées par les rebelles sur les montagnes surplombant Saké sont tombés sur le village de Kimoka. C'est à près de 2 km du centre de Saké. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer, disent nos sources sur place, excepté le fait que cela a accru la psychose dans la cité qui enregistre un retour timide des habitants. Dans la même zone, nos sources parlent d'un autre affrontement qui a opposé lundi matin l'armée congolaise aux rebelles M23 sur l'axe Kimoka-Chauvet dans le parc national de Virunga, sans plus de détails. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Retour à Beni. Le chef du village Massaou, dont le territoire de Beni, à 60 km de la ville, appelle la population à demeurer calme et à vaquer librement à ses occupations. Les habitants de ce village n'avaient plus accès à leurs champs en raison de l'insécurité causée par des bandits armés. Cependant, depuis l'arrestation du chef de cette bande de malfaiteurs, le calme est revenu. Cette arrestation est saluée par la société civile locale qui félicite les forces de sécurité et encourage la population à signaler tous les suspects qui menacent la paix communautaire. Philemon Kambale, le président de la société civile de Massaou, est au téléphone avec Marc Marufimbo.
Nous saluons la bravoure de l'armée de tous les efforts qui ont été fournis pour la stabilité de la région où il y a accalmie au sein de la population. Ce bandit armé est le cerveau moteur d'une bande de bandits armés qui inquiétait la population dans la région. Aujourd'hui, on peut respirer. Nous saluons aussi la collaboration de la population avec les autorités locales et les services de sécurité qui a donné ces résultats. Le samedi, nous avions tous fui. Ces bandits nous ont terrifiés. Là maintenant, il est aux arrêts à pleine audition pour savoir qui il est, son origine, son adresse, sa bande, pour tout mettre au clair. La population de Massaou doit vaquer librement dans ses occupations quotidiennes, même dans la partie de Ndiapanda Bella. Nous savons bien que nos cultivateurs de la région ont leur champ dans la région de Massaou, mais nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect dans la région et dénoncer la présence de tous les détenteurs illégaux d'armes dans la communauté, car là maintenant, nous avons une assurance de sécurité, car les autorités sont à la trousse de tous les bandits qui se cachent au sein de la communauté.
Bouclons ce chapitre sécuritaire par cette nouvelle de la province du Maïndombe dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, surtout pendant les festivités de fin d'année. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise invite les officiers et éléments de la police à la discipline et au respect de leurs missions régaliennes. Cet appel a été lancé lors d'une parade qu'il a présidée lundi à Inongo, au cours de laquelle il leur a aussi donné des instructions sur les dispositifs sécuritaires mis en place pour que cette période se passe dans la paix et la sérénité. À l'occasion, le commandant Dengamo Karawa, Louis Segon, a déploré la brutalité avec laquelle les policiers procèdent lors des arrestations ou interpellations de la population en cas de bavure. Il est au micro de Irène Mboma Luzolo.
Le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année, j'avais profité de la parade pour rappeler le policier quelques devoirs que nous, de la police, nous devons avoir vis-à-vis de la population. Et aussi la façon dont nous allons travailler les dispositifs sécuritaire. Les policiers doivent être disciplinés. Un constat malheureux, souvent ce sont des brutalités, des violences de tout genre que nous déplorons. Tout être humain a droit au respect. J'ai remarqué que souvent, lors des interpellations, il y a toujours la brutalité. Une arrestation n'est pas synonyme de brutalité. Dernièrement, on a connu une situation ici dans la ville, l'incompréhension entre les éléments de la police et un député provincial, et ça a créé beaucoup de problèmes, il y a eu la brutalité, tout ça. Alors, il fallait quand même les rappeler à l'ordre pour savoir que tout ne nous est pas permis. Dans les missions de la police, nous avons la protection de la population et de leurs biens. Ils doivent accompagner la population pour que l'année se termine bien et nous commençons la nouvelle année dans la quiétude.
Nous venons de l'apprendre, le directeur d'une radio communautaire de Bounia a été blessé à la tête et au bras dans la nuit de lundi à mardi par des bandits armés qui se sont introduits dans son domicile par effraction. Ils l'ont torturé, notamment avec ses enfants. Ils ont apporté de l'argent et autres biens de valeur et se sont retirés sans être inquiétés. On écoute le témoignage de la victime au micro de Sadiq Aboubakar.
Directement cassé d'abord l'ampoule de l'extérieur. Et là, j'ai demandé, qui êtes-vous? Ils m'ont répondu, non, yo, fongo la porte na yo. Ou asso qui fongo l'ité, tout au béton massage. Moi, j'ai attendu vraiment si ma fenêtre directement, pouf, ils ont cassé les vitres. J'ai crié, ils m'ont répondu à l'ingala, oh ma togi, tout au kota anda kona yo. J'ai attendu après 3-4 minutes comme ça. Ils ont accès directement dans la maison. Mes enfants étaient sérieusement tabassés. Lorsqu'ils ont vu que j'ai résisté, alors ils ont commencé à taper ma fille et dire, okay, dites à ton père, si tu ouvres pas la porte, et là, on te tue tout de suite là. J'ai été obligé d'ouvrir la porte facilement. Vous voyez, il y a les traces sur ma tête. Il y a deux coups de machette. Le troisième coup, j'ai essayé un peu de barrer. Voilà, ça a coupé ma main ici. Donc, c'est par là. Ils ont demandé de l'argent. J'ai pas de l'argent. Non, non. Donc, tu es journaliste, donne-nous l'argent.
Le commandant de la police dans la ville de Bounia, le colonel Abeli Mwangu, affirme que les investigations sont en cours. À Mbandaka, l'association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, AMASEC, exhorte à une sensibilisation contre la Mpox. Cette épidémie a fait plus de 300 victimes dans la province, mais aussi sur la gouvernance dans les secteurs environnementaux et la lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles. Au cours de la conférence de presse tenue mardi, 50 acteurs locaux, dont des journalistes, sont appelés à étendre la sensibilisation auprès de leur base et à travers leurs émissions en vue de réduire ces phénomènes à l'Équateur. Peter Biako, le secrétaire exécutif de l'AMASEC, revient sur l'opportunité de cette sensibilisation au micro de Paul Richard Malengela.
Les sensibilisateurs ont plus insisté sur la prise de conscience dans la lutte contre l'épidémie des Mpox, où il n'y a pas assez de fonds dans ces volets, comme on constatait avec Ebola, Covid-19, où les sensibilisateurs ont mis un accent sur la prise de conscience pour la communauté en vue de réduire cette maladie. Et aussi, les sensibilisateurs ont mis un accent sur la réduction des violence est faite aux femmes et aux jeunes filles dans la communauté. Sur base des informations dispensées aux participants, la MASEC va produire un magazine en français en Lingala. La communauté a confiance aux informations diffusées par les radios communautaires. Quand on leur dit que Mpox est en train de tuer pour combattre cette maladie, il faut se laver les mains, même avec des cendres, la communauté va appliquer. C'est-à-dire, la suite est que la sensibilisation va continuer au sein des médias et à travers les ONG locales qui ont suivi la sensibilisation.
La stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida, PVV en sigle, pousse certains à vivre cachés. Ce rejet par la communauté conduit d'autres à la mort, faute de prise en charge. C'est ce qu'affirment certains PVV rencontrés par Radio Capi. Malgré tout, ils encouragent les malades souffrant de cette maladie à vaincre la honte, car il est possible de mener une vie normale si on respecte les indications médicales. Le point avec Jean-Claude Loki Dile.
Divine Lemita, mère de deux enfants et porteuse du VIH-Sida depuis 11 ans, elle affirme que plusieurs personnes parmi les PVV sont victimes de la stigmatisation, c'est par exemple dans des foyers et même dans des quartiers, ce qui amène certains à se replier sur eux-mêmes, entraînant parfois la mort.
Si quelqu'un est très stigmatisé, peut voir, maintenant la valeur dépend de même les médicaments, ça n'a pas de ça. Tous les gens, ça, je suis malade, là je dis, c'est comme ça. Tout ce que je fais très bien, c'est rien. La mort arrive.
Malgré cette stigmatisation, Jean-Claude Biaruhanga et notre PVV encouragent les autres malades à briser la honte et à continuer à prendre les antirétroviraux, seul moyen de vaincre cette maladie.
Je leur donne les conseils de ne pas se décourager, de continuer à vivre positivement les sérologies, de continuer à adhérer au traitement parce que aussi longtemps que les ARV sont là, c'est le miracle, nous devons continuer à les prendre, accepter sur les plans moraux et psychologiques, à afin que les médicaments travaillent. Parce que sans la psychologie, les ARV ne peuvent pas travailler.
Plusieurs articles de la loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA et des personnes affectées interdisent la discrimination et la stigmatisation en RDC. Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Actualité internationale. Au Tchad, le gouvernement met en garde une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire franco-tchadien. Une vingtaine de personnes issues du gouvernement et de la présidence sont chargées du suivi de la décision présidentielle de mettre fin à ce partenariat qualifié d'obsolète et sans plus-value par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. La première mission pour cette commission est de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire, de la convention qui encadre la présence des soldats français sur le territoire tchadien et de ses annexes auprès des autorités françaises.
L'invité.
Radio Kapi l'a rencontré à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Maryse Guilbault, ambassadrice du Canada en RDC, est allée s'enquérir de l'état d'avancement du projet financé par son pays dans cette province en faveur des femmes vulnérables. C'est dans le cadre de l'aide au développement. L'ambassadrice du Canada en RDC est l'invitée de ce journal. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Maryse Guilbault. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission?
Alors bonjour, oui, effectivement, je suis l'ambassadrice du Canada. Alors je suis ici au Kasaï oriental pour la première fois depuis mon arrivée en RDC. Et l'objectif principal est de visiter un petit projet que le Canada finance ici à Mbujimayi avec un groupe de femmes vulnérables, donc des jeunes filles, des mères, chefs de ménage qui ont dû être déplacées ici par la force. Alors aujourd'hui, je les rencontre, je veux voir quel est l'impact du projet. Je vais leur remettre de l'équipement qui est nécessaire pour eux. Et voilà, c'est l'objectif principal. Et aussi, évidemment, je veux connaître la région. Je veux connaître l'ensemble de la RDC. L'ambition de visiter toutes les provinces de RDC pendant ma mission ici. Je suis pas certaine que je vais l'accomplir, mais au moins ici, le Kasaï oriental, c'est ma 10e province que je visite.
Quelle est la nature des projets que vous allez appuyer?
Mais en général, les projets qu'on appuie s'enlignent avec notre politique féministe d'aide au développement. Donc, on s'est doté de cette politique qui a un accent sur les femmes. On met l'emphase sur les femmes, les filles, autant comme bénéficiaires que comme exécutrices des projets. C'est à la fois c'est de l'empouvoirment des femmes pour les amener à être plus autonomes, que ce soit l'entrepreneuriat, par exemple. Et c'est le cas aujourd'hui, ce petit projet qu'on finance aide les femmes à apprendre un métier, que ce soit culinaire ou couture ou autre. Mais l'objectif, c'est qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins, à elles et à leur famille, à leurs enfants.
Et par rapport à l'entrepreneuriat, y a-t-il déjà des équipements que vous comptez remettre aux femmes aujourd'hui là?
Ça peut varier. Dans un projet récent, on avait remis, par exemple, pour les femmes qui voulaient apprendre la coiffure. Donc, c'est un groupe qu'on appuyait, qui donnait de la formation aux femmes, l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Chez les femmes, par exemple, qui voulaient apprendre la couture, on leur remettait une forme de tête, un modèle sur lequel elles peuvent pratiquer. Donc, un exemple, ou une autre femme qui voulait apprendre l'électricité, on lui a remis des outils, un coffre à outils, avec des outils de base qui sont nécessaires pour la manipulation de tout ce qui est relié au système électrique.
Combien de femmes et de jeunes filles sont concernées par le projet appuyé par le Canada ici à Mbujimayi, au Kasaï oriental?
Dans le cas d'aujourd'hui, on parle de 70 femmes qui vont bénéficier directement de la formation qui est offerte.
Y a-t-il des ONG avec lesquelles vous travaillez ici?
Oui, l'ONG principale ici à Mbujimayi s'appelle IFEM, donc c'est Initiative Femmes Préparation.
Dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous remettez les équipements aujourd'hui, vous les appuyez, et comment se fera les suivis?
Ben, éventuellement, on espère qu'elles vont graduer, recevoir un diplôme et pouvoir partir leur propre petite entreprise, que ce soit un petit restaurant ou un atelier de couture ou autre. Et évidemment, on fait un suivi serré sur tous les projets. Lorsque le Canada investit dans un projet, on veut s'assurer que l'argent est vraiment destiné à l'objectif qu'on s'est fixé, qui est en général aider les groupes vulnérables. Dans le cas présent, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, mais ailleurs, ça peut être des groupes d'enfants, par exemple. On va toujours s'assurer que les bénéficiaires reçoivent ce pour quoi on a mis un projet en place.
Une personne qui a déjà reçu les financements, l'enveloppe, la personne qui tombe en faillite, y a-t-il des mesures pour relever la situation?
L'objectif d'un petit projet d'ambassade, que ce soit la coopération canadienne ou d'autres pays amis qui font la même chose, c'est pas de se substituer à l'État. Nous, ce qu'on fait, c'est ponctuel. C'est à un moment précis dans le temps pour un groupe précis qu'on a identifié, qu'on a jugé apte à recevoir les fonds. On a jugé que l'aide qu'on apporterait contribuerait à ce que ces femmes-là sortent d'un pétrin momentané. Elles ont été déplacées par la force. Elles sont ici, donc c'est pour les relancer. Par la suite, c'est au gouvernement à prendre la relève. C'est au gouvernement à s'assurer que souvent ce que nous on fait comme coopérants, si ça marche et ça marche bien et ça apporte la prospérité, ça apporte le développement, ça apporte la sécurité et la paix, ben on s'attend évidemment à ce que le gouvernement prenne la relève et continue dans cette même lignée.
Madame Maryse Guilbeault, je vous remercie.
Merci à vous et bonne chance à toutes les femmes, à toutes les mamans.
Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en RDC, s'entretenait avec Esther Ndalafina. Fin de ce journal sur Radio Kapi. Merci de l'avoir écouté.